Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes.
T'as déjà mis ce métier
par un affichage.
Vous avez quand même besoin de communiquer.
Le chef de publicité qui est un chef d'orchestre.
Je suis pour la communication.
Chez Derrière l'affiche, le podcast qui explore la communication à travers ceux qui la font.
On a déniché pour vous des spécialistes dans leur domaine. Stratèges, créatifs, chasseurs de tendances, consultants. Pour tenter de décrypter la place de la communication aujourd'hui, défendre ses attributs, ses intérêts, son utilité sociale et sa valeur pour les entreprises.
On a découvert des parcours traditionnels ou plus étonnants, des personnalités singulières, des cheminements évidents ou au contraire surprenants.
On a parlé de leur métier, de leur quotidien, et on a évoqué sans tabou l'argent, le salaire, les tarifs.
Ce podcast est fait pour ceux qui ont des doutes sur l'intérêt d'investir dans la communication, pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur futur professionnel, et pour tous les curieux.
Nous sommes Manon et Souila, deux communicantes passionnées, et nous souhaitons faire changer le regard sur ces métiers que nous pensons nécessaires et créateurs de valeur.
Vous embarquez avec nous ?
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'affiche qui clôture la saison 2. Ludovic Mornant roule sa bosse à Lyon sur un marché bien précis, la bière, et plus largement les alcools. Autrefois graphiste, il déploie aujourd'hui des stratégies de marque ficelées pour ses clients de rêve. Fan de podcast, il en a même créé deux, Super Potion et Milecto, et produit des contenus à haute valeur ajoutée pour les amateurs de boissons. Grâce à cette conversation, vous en saurez davantage sur les coulisses d'un exorcisme de marque de sa trempe. Prenez des notes parce qu'il distille tout au long de l'épisode des tas d'outils, de canaux de veille et des ressources qui l'ont nourri comme entrepreneur et créatif. Alors si vous voulez gagner du temps dans votre parcours pro, n'attendez plus et écoutez cet ultime épisode de Derrière l'affiche. On vous souhaite une excellente écoute. Continuez à en parler autour de vous et à nous donner vos feedbacks. Et sachez que nous aussi, nous sommes là pour développer votre marque via de la stratégie éditoriale, commerciale et la création audiovisuelle. À très vite!
Bonjour Ludovic Mornant, merci d'être parmi nous aujourd'hui dans Derrière l'affiche.
Bonjour Manon.
Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours, tout d'abord te présenter bien entendu, et nous raconter ton parcours?
Pas de souci, ben écoutez, moi c'est Ludovic Mornant, je dis que je suis exorciste de marque, donc exorciste pourquoi, on en reviendra peut-être un peu plus tard. En termes de parcours, je ne sais pas si c'est un parcours classique ou pas, mais en tout cas, j'ai fait un bac scientifique et après j'ai directement plongé dans les abysses de l'art, à l'école de Condé à Lyon, où j'ai fait un BTS communication visuelle option multimédia pendant 3 ans, donc pour apprendre un petit peu les ficelles de l'art, parce que j'ai toujours aimé tout ça, dessiner, etc. Et suite à ça, après de 2004 à 2007 du coup, et à partir de 2007, j'ai directement entamé un premier job en tant que motion designer, web designer, un mix des deux, et c'était dans une première web agency sur Lyon. C'était en contrat pro, donc ça a duré 6 mois. Heureusement que ça a duré 6 mois parce que ça s'est vraiment pas trop bien passé. Je crois que direct, j'avais pas forcément le tempérament à être salarié. C'était un contrat très spécifique où il fallait que je passe 7 heures par jour. Alors pour me faire bien voir, j'aurais dû rester peut-être 8. Et du coup, j'étais le premier à partir une heure avant tout le monde et les vrais salariés, eux, me regardaient d'un œil bizarre à chaque fois que je partais une heure plus tôt. Mais moi, j'avais des répètes de musique, j'avais mon groupe, j'avais mes idées en tête. J'avais signé un contrat, c'était ça, il fallait que je m'y tienne. Donc bon, le boss, ça lui a pas plu, quoi, clairement. Et du coup, les embrouilles ont commencé. 6 mois plus tard, du coup, j'étais parti. J'ai pris mon chômage avec ces 6 mois de travail. Et 6 mois plus tard, donc pendant cette période de chômage, je travaillais avec une agence de promotion artistique. Parce qu'à l'époque, donc j'étais designer et j'étais un peu spécialisé dans les pages MySpace. À l'époque, quand on était sur MySpace, on pouvait, avec du CSS et du code HTML, complètement modifier les pages avec des players différents, avec des headers, des belles images, etc. Donc en fait, j'étais un peu spécialisé dans les pages MySpace de groupes de musique, de rock spécifiquement. Et avec l'assaut de promotion artistique qui faisait jouer des groupes, on était à fond dedans, on voulait faire monter ce truc en puissance. Et donc ça, ça a duré pendant tout mon chômage. Donc c'était pas un chômage plan-plan, c'était un chômage où je m'investissais personnellement. Et suite à ça, j'ai retrouvé deux autres jobs pour le même genre de travail, donc deux autres web agencies sur Lyon. On va dire un an et demi dans une et six mois dans l'autre. Dans une, j'ai créé plus de 1500 chartes graphiques. C'était en gros, il fallait faire une charte graphique par jour, des fois peut-être même deux, et à chaque fois pour un thème différent, donc un magicien, un tattoo shop, un coiffeur, un salon d'esthétique, de beauté et tout. Enfin, en gros, c'était vraiment un thème différent à chaque fois et c'était assez porteur. J'ai appris un peu le CSS, le code HTML, parce que tout ça, on nous l'apprend pas vraiment en école d'art. En école d'art, on apprend juste à être créatif, à rêver et le photomontage, mais on n'apprend rien d'autre, clairement. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et même, j'avais même l'anecdote de 6 mois après être parti de l'école de Condé, le boss de l'époque m'appelle pour me demander si je voulais pas enseigner chez eux. Je lui dis, bah écoutez, enfin, je viens de sortir d'école, c'est quand même un petit peu tôt. Donc tout ça parce que j'avais un papier dans, je sais pas, Digital Artist ou un truc comme ça, c'était un magazine de graphistes, quoi. Donc eux, ils l'avaient relayé sur leur site, donc ils en étaient fiers parce qu'un de leurs étudiants, un machin. Et du coup, il m'a proposé ça juste après. Je me suis dit non, mais c'est pas pour moi, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà. Et au final, pour en revenir au job d'après, donc Web Agency, une agence qui m'a débauché de ce travail-là qui commençait un peu à m'ennuyer. Ils m'ont débauché sans me dire qu'ils étaient en liquidation judiciaire. Ce qui fait que 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, eh ben, c'était licenciement économique et je me retrouvais au chômage avec quand même un bagage de graphic design, web design, etc. Et un peu de référencement aussi parce que dans ma deuxième boîte, il y avait quelqu'un qui était très entrepreneur dans l'idée et qui m'a un petit peu formé de manière personnelle au référencement naturel, ce qui a été le Graal pendant mes premières années d'agence. Suite à cette liquidation judiciaire, moi je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu fais maintenant, il faut réfléchir, est-ce que tu sautes le pas, t'es pas forcément fait pour être salarié, recevoir des offres, des ordres, et parce que recevoir des offres c'est ce que je voulais justement. Et du coup je me suis dit allez bah lance-toi et puis on verra bien. Le Pôle emploi à l'époque, et sûrement maintenant, enfin on en parlait peut-être en off, mais permettait d'avoir 50% de son budget dédié à la création d'une entreprise. Du coup, j'ai choisi cette option-là, et puis j'ai eu un quart tout de suite, un quart 6 mois plus tard, après la création de mon agence. Donc voilà, quand on crée son agence, on est freelance, on n'y connaît rien, on essaie de trouver des clients. Donc les premiers clients, forcément, c'est le bouche à oreille et c'est les potes. Donc il y avait la maman d'un pote qui travaillait pour une agence de pub, et en l'occurrence pour Nestlé. Donc j'ai directement commencé à travailler pour des petits objets qu'on retrouvait dans les paquets de céréales.
Ah oui.
Et du coup je devais faire un petit peu de 3D, donc à l'époque j'étais sur Cinéma 4D, je faisais aussi un petit peu de 3D, donc c'était un peu mon premier job. Donc voilà, et puis après de fil en aiguille, le site internet a été bien référencé grâce à tout le bagage que j'avais eu. À l'époque c'était plus simple, c'était du coup en 2010, hein, la création, juin 2010. Donc ça va quasiment faire 13 ans. Et franchement, il n'y avait vraiment pas trop de concurrence à l'époque. Là maintenant, quand je tape agence de com, y en a de partout sur Google. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus simple. Les algorithmes n'étaient pas les mêmes, c'était plus facile. Donc en gros, j'étais en première page et j'avais fait le parti pris d'avoir un nom d'agence, donc qui était Black Sands, qui est toujours le même depuis maintenant, et un site à mon nom propre, donc ludovicmornant.com. Et en fait, c'était deux sites qui disaient la même chose, mais j'avais des clients qui venaient des deux parts. Donc je bénéficiais de deux référencements distincts pour la même chose. Donc bon, j'ai filouté un petit peu quoi, pour essayer d'avoir des clients. Et ça m'a apporté des clients de longue date, des restaurants, des fast-food, de la lubrification et collage industriel pour les avions, tout ça. J'ai travaillé avec un magicien pour lequel bon, le courant était bizarre, mais au final, j'ai pu faire énormément de choses. J'ai pu être sur des culs de bus, des abribus aussi, des affiches de métro à Paris, des trucs. Enfin, il y a eu plein de clients différents comme ça qui m'ont permis, en tant que graphiste, de me développer et me dire « Ah bah tiens, t'as pu travailler sur tel support, des 4x3, machin. » Donc j'ai pu faire un petit peu tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et voilà, et ça a duré, et ça dure toujours, depuis presque 13 ans maintenant. Donc voilà, de manière le plus succinct possible.
À l'époque, du coup, tu dis graphiste, t'avais pas du tout l'aspect stratégique ?
Pas du tout.
Tu faisais, enfin, t'exécutais en fait.
Je faisais l'idée. Ouais, c'est ça. En fait, on va dire que 80% de ma prestation, c'était la création de sites web. Donc, oui. J'étais sur D'accord. WordPress, je faisais des sites web, je regardais ce qui se faisait de part et d'autre sur les sites réputés qui gagnaient des awards, etc. J'essayais d'aspirer le site et de revoir comment il était fait parce que. Et je pense que c'est peut-être la base de tout graphiste, c'est d'aller d'abord voler l'idée pour la refaire dans son coin, pour voir si on y arrive ou voir comment c'est fait. Enfin, en fait, décortiquer. Et autant l'illustration, j'étais pas bon là-dedans, autant décortiquer les choses et savoir comment c'était fait, ça, c'était plus mon délire. Donc du coup, ouais, j'aspirais les sites un peu trendy, le site de Nike Better World à l'époque qui a fait toute la vague des sites en parallax scrolling, maintenant qui sont très faciles. C'était en 2010 ça que c'est arrivé. Donc on scrolle un petit peu avec la souris, il y a différents backgrounds qui arrivent pas au même niveau, pas à la même vitesse. Et ça, c'était un peu ce que je vendais au début à mes clients, des sites un peu comme ça, un peu fous. Mais non, en fait, je mettais pour moi la stratégie. C'était mon plus gratuit.
Ah oui, d'accord.
Quand on est graphiste, on ne sait pas tout ça. Bah oui. Et en fait, ma manière d'appeler les clients et de les avoir, c'était le petit bonus de l'agence, c'est le conseil en stratégie gratuit. Sauf que bon, conseil en stratégie, ça fait bien, c'est des mots qui font bien. Sauf qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je mettais ça en disant, c'est mon avis, mon œil de graphiste, quoi. Mais voilà, c'était une option gratuite qui figurait. Quand après j'ai su qu'on pouvait faire payer ça 5, 10, 15, 20 000 euros, je me suis dit ok, erreur de débutant, mais on est obligé d'y passer. Donc oui, juste exécutant pour principalement les sites web et les logos, la charte graphique et tout.
Et donc, à quel moment tu as opéré, ou la bascule s'est opérée toute seule peut-être, naturellement non. Avec les différents clients que tu as eus au niveau. Parce que ça fait 13 ans, donc aujourd'hui, tu es quand même exorciste de marque, c'est quand même différent, quoi.
Ah ouais, le grand druide. Non, c'est totalement différent, mais c'est très récent. Mmh. C'est un poil avant le Covid,
D'accord.
que j'ai opéré la bascule de graphiste à brand stratégiste, parce que c'est un peu le vrai terme, brand stratégiste. Même si ça veut rien dire pour les Français, peut-être. Hein, peut-être stratège ou peut-être planeur
stratégique.
Stratège de marque, ouais,
Non, c'est encore autre chose. Oui, stratégie de marque.
Mais stratégie de marque, ouais. En fait, la bascule a opéré juste avant le Covid. En fait, moi, j'étais à Lyon pendant toutes ces années et j'ai décidé avec ma compagne en 2019 d'aller faire le tour du monde, donc de m'installer à Melbourne, en Australie. Et du coup, à l'époque, moi, ça faisait 7 ans que je travaillais pour une distillerie. Donc d'abord en auto-entreprise et puis ça marchait bien. Donc en fait, ils m'ont embauché à mi-temps. Pendant 4 ans à peu près, donc je faisais j'étais directeur artistique de tout leur panel de marques, et ils en avaient vraiment beaucoup, ils étaient assez réputés, et ça a duré un petit moment. Donc en fait, j'avais la chance d'avoir ma situation était très stable parce que j'avais la moitié chez eux, donc avec un salaire qui était correct pour un mi-temps. Et tout le reste, c'était mon agence à moi, donc je faisais comme je voulais. Mmh. Et du coup, le truc, c'était la prise de risque ultime. On part à l'autre bout du monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Eux ne voulaient pas me garder à l'autre bout du monde parce qu'ils me disaient que tu verras, c'est différent, il y a le décalage horaire, c'est compliqué. Moi, j'étais persuadé que ça le ferait, mais au final, ils n'ont pas voulu continuer. Donc du coup, je suis parti avec notre job, toujours... ce que je faisais à distance, et en pensant que ça le ferait, quoi, que que tout serait nickel et tout. Sauf qu'on arrive là-bas, le temps de prendre ses marques, parler anglais, de comprendre un peu tout ce qui se passe, de comprendre que c'est super, super cher la vie à Melbourne. Bon, ma compagne, elle avait un transfert, les consultantes aussi dans un autre secteur, mais elle avait déjà un transfert, donc il y avait un salaire qui était garanti. Mais moi, de mon côté, je me suis rendu compte, en fait, la distance n'aidait pas du tout, et c'était avant le Covid, justement. Donc les gens, ils étaient très frileux de travailler avec quelqu'un à distance, de jamais le voir, etc.
Oui, c'est loin des yeux, loin du cœur.
Voilà. Et moi, je pensais qu'en fait, ça irait bien, que ça marcherait. Donc en fait, je me suis retrouvé là-bas un petit peu dans la merde, parce qu'en fait, les clients, je les sentais frileux de dépenser de l'argent avec moi, et j'étais à l'autre bout du monde. Quand je leur disais... en fait, ils voyaient mon siège social, ils disaient « Ah, on n'est pas loin, vous êtes dans le deuxième, à Lyon, tout ça. » Je leur dis « Ah ouais, bah là, non. Là, je suis à Melbourne, à l'autre bout du monde, mais je peux quand même faire des choses. Hein. » Et je sentais qu'en fait, non, ça fitait pas. Et du coup, bah, jusqu'à un moment où je me suis dit « Bon, bah merde, il faut peut-être me réinventer, il y a un truc qui ne le fait pas. » Donc j'ai cherché du job sur place. Ils étaient très, très chauvins, des Australiens, donc ils avaient... Moi, je me disais, bah, ça va, j'ai 10 ans de bagage dans le graphisme et tout, ça va être easy. En fait, pas du tout. Donc, pas eu de chance à ce niveau-là. J'ai fait plusieurs entretiens, mais pas eu de... Il y en a qui ont dit oui, mais non. Et puis, plusieurs fois, plusieurs reprises, mais non. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, là, il y a un vrai bug. Il faut que je switch. Il faut que j'opère une stratégie parce que c'est plus possible. Je me rendais compte que le design, ça devenait une commodité. Que beaucoup de gens cassaient le prix du marché, ils faisaient des sites internet à 500 balles alors que les miens ne coûtaient pas ce prix-là. Et du coup, je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas spécialisé et qu'en fait, les clients regardaient la concurrence. En fait, ils se disaient, mais pourquoi je paierais, je sais pas, 5 ou 10 000 balles pour un site web alors que je peux en avoir un à 750 ? Pourquoi je paierais un logo 5 000 alors qu'il y a quelqu'un qui me le fait pour 200 euros ? Donc en fait, on est sans arrêt en train de se justifier qu'on est assez bon ou qu'on a assez de bagages pour faire son métier. Et en fait, ça ne marchait plus parce que les gens, ils veulent au moins cher ou le meilleur rapport qualité-prix, donc ils ne me prenaient pas. Et du coup, j'ai écouté 2-3 podcasts, j'ai lu pas mal de livres sur la brand stratégie, les consultants, etc. Et un livre phare pour moi, c'est Win Without Pitching Manifesto, c'est de Blair Hentz. Et c'est un livre, en gros, qui donne les 12 commandements d'une agence créative. En gros, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, The Win Without Pitching Manifesto, c'était pour moi le Graal. Et c'est un truc que tous les graphistes devraient lire. Ça m'a appris à me pricer, à faire confiance en moi. Et parce qu'on a des lacunes en tant que créatif. On a envie de solutionner les problèmes directs sans être payé. On a du mal à se faire payer ce qu'on devrait. Donc, quand on a un prix en tête, en fait, bah, faut le multiplier par deux. Parce qu'on fait toujours 30 à 50% du job en plus sans le vouloir. Donc ouais, ça m'a appris pas mal de choses. Et une autre chaîne YouTube qui s'appelle The Future par Chris Do, qui est un mec assez connu maintenant sur la sphère YouTube et web, et eux ils m'ont appris, en gros, il y a une vidéo très connue qui s'appelle How to Price a Logo, et en gros c'est une vidéo qui a 4 millions de vues, etc. Et en gros ils demandent aux gens combien vous feriez un logo, et en gros il dit aux gens, bon bah voilà, pourquoi ce serait pas 20 000 balles, pourquoi ce serait pas 50 000 balles, et tout le monde hallucine, en fait, tout le monde dit, mais non, c'est du taux RR, il faut déduire ça en fonction du temps que tu passes, etc. Et le mec prouve par A plus B que non, il n'y a rien à voir avec le temps que tu passes, ça peut te prendre 5 minutes ou 2 ans, tu prices le client et pas le job, en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir à plein de choses. Et une des clés, justement, ça a été la spécialisation. Et donc, j'avais pas mal de mentors, je lisais des newsletters, etc. Et à un moment donné, j'envoie un mail à un des mecs que je suivais et je lui dis, j'en suis là, je fais ci, je fais ça, mais j'ai du mal à avoir des clients, j'ai pas de lead, il n'y a pas de mail qui arrive et tout. Et il m'envoie un mail. Alors les anglo-saxons, ils sont toujours très succincts et cash, genre limite même pas bonjour, au revoir. Et le mec me répond juste what's your dream client, juste ça quoi. Il m'envoie ça, il me dit même pas bonjour, au revoir. Donc quel est mon client rêvé? Donc c'est genre une question, mais jamais j'aurais pensé à ça déjà. Enfin, est-ce que j'ai vraiment un client rêvé, tout ça? Et j'essayais de regarder dans mon bagage de portfolio, et j'avais beaucoup d'avocats et j'avais beaucoup de boissons, et notamment des spiritueux, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, Dream Client, je ne sais pas, Jack Daniels ou des marques comme ça, en fait. Je me dis, niveau avocat, c'est moins mon délire, quoi. C'est moins drôle. Donc, je lui réponds ça. Et puis après, il me disait, il me répondait très succinctement à chaque fois, mais très... Il me disait, bah, est-ce que tu peux me dresser une liste des 10 Dream Client que tu voudrais ? Donc, j'ai saisi la liste et bim, bah, Coca, machin, Jack Daniels, les marques de vodka ou de spiritueux ou de bière... Et du coup, dans ma tête, je commençais à avoir un truc qui m'a dit, bon, bah ok, commence un podcast et commence à te nicher spécialement pour ce type de client. Et moi, je savais pas que ça marcherait ou pas, on le sait jamais en fait.
Bah ouais, on le sait jamais.
Non. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, pour moi, c'était un gros tournant parce que je me dis, ok, dans ma page d'accueil, je dis que je suis une agence de créa. Et du coup, je suis un petit peu pour tout le monde. Donc c'est cool, je peux avoir différents types de projets. Le fait de se nicher, tu te demandes si tu ne vas pas te faire chier au bout d'un moment à travailler toujours pour la même personne. Et en fait, non, quand tu te niches, tu ouvres une porte où il y en a 10 autres derrière et en fait, c'est infini le truc. Et ça, on ne le sait pas avant de le faire. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai commencé à faire un challenge, c'était le 366 cans challenge, où j'ai fait un design de canettes par jour pendant un an, où je m'y suis tenu. Encore une fois, ça ne m'a pas rapporté les meilleurs clients, ça m'en a importé, et une certaine reconnaissance peut-être au niveau mondial ou sur des blogs, mais ça ne m'a pas apporté le bon type de clients parce que c'est des gens qui voulaient juste du design.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas non plus ce côté stratégique encore. Donc, je me suis dit, ok, c'est un premier pas dans la boisson, mais c'est pas de la strat non plus. Et du coup, j'ai continué et j'ai créé mon podcast Super Potion en 2020, juste avant, pendant le Covid au final, avec une cave à Lyon, une cave à bière. Et j'y connaissais rien en fait dans la boisson. Enfin, j'y connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé 7 ans quand même avec une boîte avec une distillerie, mais c'était pas de la stratégie. Je voyais un petit peu leur portefeuille, comment ils agençaient leurs choses. Et j'ai commencé mon podcast et puis de fil en aiguille avec le podcast j'avais leur réseau à chaque personne que j'interviewais donc ils parlaient de moi, donc du coup j'avais de plus en plus d'écoute, etc. Et là ça fait 2 ans et les gens t'associent avec qui tu échanges en fait. Donc t'as beau rien connaître, déjà toi tu poses des bonnes questions et 80% c'est pas toi qui parles, donc j'avais pas cette peur de est-ce que c'est moi qui dois parler et tout. Et les gens m'ont associé avec les gens que j'interviewais et j'essayais d'interviewer des gens calés au final dans le milieu. Donc en fait, ils ont commencé à m'associer avec une personne ou un consultant ou un expert qui pouvait être qui pouvait avoir du sens, qui pouvait avoir de la répartie, qui pouvait peut-être assez driver ou avoir une stratégie sympa. Et pour moi, c'était le meilleur moyen de trouver des clients. C'est d'abord les interviewer de manière totalement ouverte et c'était pas des cold calls comme on dit, des sales calls, t'appelles les gens, tu leur vends quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Enfin, l'approche était totalement différente, c'était une approche où je viens vers eux, je les flatte, je les diffuse et je demande rien en retour. Donc moi ça me faisait un client, un guest. Et les gens, ils ne me connaissaient pas à la base, mais du coup, ils allaient sur mon site et du coup, ils voyaient ce que j'avais fait. Et certains m'ont dit, bon, bah ok, banco, on travaille ensemble. Et donc, du coup, ça me faisait des clients comme ça, juste parce que je les ai interviewés de manière totalement détendue et sans arrière-pensée derrière. Donc, gros switch. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à me documenter. Et ma compagne avait vraiment une approche conseil, elle plus dans la finance, mais elle avait une approche très conseil, cabinet de consulting, Deloitte, etc., KPMG, tout ça. Donc, c'est des gros cabinets de conseil qui ont des protocoles très spécifiques. Donc, le conseil de ces boîtes-là, c'est vraiment premium. C'est pas comme on peut dire, je fais du conseil, j'ai fait une formation et puis maintenant je suis consultant. C'est vraiment pas ça, c'est plus poussé. Mais je l'ai appris au fur et à mesure. Donc voilà, le switch s'est opéré grâce à ça, grâce à cet événement de partir à l'autre bout du monde et ne pas trouver de job ou avoir des gens frileux. Et à partir du moment où il y a eu le Covid, les gens ont été moins frileux. Donc, non seulement l'autorité commençait à arriver dans le milieu, j'étais plus ressenti en tant qu'expert. Mmh. Et en plus, les gens n'étaient plus frileux du tout de Zoom, etc. Et voilà, ils ont fini par me faire confiance à ce niveau-là. Donc, c'était du win-win.
Et du coup, par rapport à cette évolution, est-ce que tu pourrais nous donner aujourd'hui un cas concret de comment ça se passe avec tes clients, justement, dans cet accompagnement? Quelle méthodologie, s'il y en a une, etc., pour qu'on comprenne mieux comment tu les accompagnes aujourd'hui?
Ouais. Alors, des méthodologies, il y en a des milliards. Et j'ai l'impression que chaque agence de com se targue d'avoir son process unique. C'est toujours ça, quoi. Et c'est bien, ça fait une aura de marque et c'est bien pour développer sa singularité. Moi, je dis que je suis exorciste de marque. Donc, pourquoi exorciste? Parce que j'ai toujours ce côté un petit peu rock et rebelle. Derrière ma vision et derrière ma boîte, Studio Black Sands, ce nom Black Sands qui veut dire épine noire. À l'époque, je faisais du métal, j'étais chanteur, screamer dans des groupes. Et on m'a demandé à l'école de Condé de trouver un pseudonyme parce qu'on avait un espace serveur free gratuit à l'époque. Et du coup, je me suis dit, allez, bah, Black Sands, ça fait un peu métalleux, tout ça. J'avais les cheveux longs à l'époque jusqu'au ventre, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, Black Sand et tout ça. Donc, et au bout d'un moment, je me dis, bon, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, je m'appelle Black Sand. Est-ce que ça fait pas peur aux gens en tant qu'agence de com et tout? Donc, je me suis beaucoup remis en question. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, tu vas garder le nom. Y a des moments où je me suis dit, ah, tu vas t'appeler, je sais pas, tu vas avoir un nom très corporel, tu vas avoir une typo très lisible. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, en fait, il faut assumer qui t'es, il faut assumer tes racines. En plus, beaucoup de gens dans la boisson viennent un peu de ce milieu rock. Et du coup, j'ai fait tout le contraire, en fait. J'ai fait un rebranding en 2022 avec un logo typé black metal, donc quasi illisible, et qui dénote totalement de ce qu'on peut attendre d'une agence de com ou d'un cabinet de conseil. Parce qu'un cabinet de conseil, enfin, voilà, c'est très léché, très corporate, pas le droit à une éraflure ou quoi. Moi, c'est le rock, c'est totalement l'inverse. Et du coup, bah, ce champ lexical de trouble d'identité, d'exorcisme de marque, ça va totalement avec ce parti pris. Et du coup, alors, un process pour en venir à ta question, process de marque, après avoir signé avec le client, en fait, ce que j'appelle, je commence par un diagnostic de marque parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'on pouvait proposer plusieurs options au client. Et en fait, des fois, on peut lui proposer des options, mais on ne sait même pas s'il en a besoin réellement. On propose une création de site web, on propose du développement commercial, du branding, etc. Et en fait, on ne sait pas du tout à l'avance, avant d'avoir posé des questions, avoir vu avec lui, est-ce qu'il va vraiment avoir besoin de ça. Donc des fois, je me dis, mais j'étais dans des situations où je proposais des trucs, et je ne savais pas si c'était légitime. Donc maintenant, je commence par un diagnostic. Et dans le diagnostic de marque, déjà, je leur demande un peu de travail à la maison, en fait. Donc un audit de marque, je leur dis, bon, écoutez, prenez en photo déjà votre marque in situ, les boissons, etc., où est-ce qu'elles sont placées, qui sont vos concurrents, tout ça. Donc moi, je veux récolter tout ça. Je veux récolter... tout le placement dans les étalages, je veux récolter toutes leurs étiquettes de bière, toutes leurs com, tous leurs stickers, leurs flyers, leurs cavaliers de pompe, les affiches, tout le naming aussi, donc tout ce qu'il y a autour de tout ce qu'ils ont déposé, parce qu'il y a beaucoup de litiges, etc., avec des marques aussi. Donc ça, faut faire attention quand on fait un rebranding, quand il y a des litiges avec des marques, et ça m'est arrivé récemment. Tu peux pas faire ce que tu veux, donc c'est vraiment un listing de tout ça. Et suite à ça, il m'envoie un WeTransfer, je sais pas, un truc qui fait peut-être 2 gigas, 3 gigas, avec toutes ces infos-là. Et à partir de ce moment-là, je commence à disséquer un peu tout ça. Et on fait un kick-off. Donc un kick-off, c'est une première réunion de 2 heures. Où on essaye de formaliser ou de cadrer un petit peu comment ça va se passer. Donc ça, c'est une approche typiquement conseil. Quand est-ce qu'on va discuter? Donc quels jours sont dispo, etc. Quel outil on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser Trello? Est-ce qu'on va utiliser, je ne sais pas, un système où on est sur un calendrier avec les trucs cabane? Enfin, non, ce n'est pas cabane, c'est Quant, je crois, quand on voit le calendrier, le rétro-planning, etc. Est-ce qu'on utilise, quel canal? WhatsApp, Zoom, Discord, machin? Je crée un canal Discord spécifique avec toute la team pour déjà refédérer aussi l'équipe. Pendant le kick-off, on fait quoi d'autre ? On planifie qui vont être les stakeholders, comme on dit en anglais, donc les parties prenantes du projet. Donc pour moi, je les appelle les grands druides au final. Qui est-ce qui va être là pour chapeauter le projet ? Donc forcément, il y a le dirigeant. Mais est-ce qu'il y a le directeur de prod, le directeur commercial ? Qui va être là pendant les workshops ? Est-ce qu'il y a un investisseur secret dont on ne connaît pas le nom qui va venir foutre sa merde à la fin du rebranding et en fait on pendant 15 heures ou 30 heures derrière une strat et puis après quelqu'un il met les sous, il met 80%, il dit ah non ça ne me va pas. Donc voilà, il faut le savoir tout ça en amont. Donc toute la partie apôtre, comme je dis, donc les parties prenantes, les partenaires externes, donc les gens qu'on va interviewer. Très important,
les clients, les fournisseurs,
les distributeurs, les caves, je sais pas, Naturalia, Biocoop, tout ça, la vie claire. Donc, est-ce qu'ils ont des gens que je peux interviewer ? Et puis après, toute l'équipe interne. Et suite à ça, je leur pose des questions sur leurs objectifs. Donc, j'ai la framework des objectifs SMART pour arriver à des choses très, très précises. Et qu'est-ce qu'on fait après ça ? On regarde les points de friction, que ce soit sur le site web, sur le packaging, sur le branding, quels sont les éléments qu'ils aimeraient améliorer, qui ne leur convient pas aujourd'hui. Et une partie que j'appelle clairvoyance, c'est là, ils ont le droit de rêver. Là, c'est un petit peu moi, quand j'étais dans mon école d'art, où j'avais le droit encore de rêver, je leur dis, fermez les yeux, imaginez un endroit, votre taproom, votre bar de brasserie, qu'est-ce que vous voulez sur les murs, qu'est-ce que vous voulez sur votre étiquette. Enfin, et là, ils se lâchent un petit peu, ils disent pas mal de choses. Et pendant le workshop... non, avec celui-là, je suis juste avec le fondateur, mais le workshop d'après, je prends la température pour savoir qui va trop parler, qui va pas assez parler, parce qu'il y a toujours des gens qui se mettent vachement en avant, qui parlent beaucoup, d'autres qui sont timides, et c'est limite peut-être les plus intelligents qui sont le plus timides, donc il faut arriver à les faire ressortir, voilà. Donc il y a toute cette partie-là, et à la fin, j'explique comment va se passer l'exorcisme de marque, donc le rebranding au final, quelles vont être toutes les étapes, donc l'essence de marque, la raison d'être, la mission, la vision, les valeurs, après le positionnement, donc la concurrence, l'audience, la différence, après l'architecture de la marque, très important, enfin comment son produit se comporte dans le portefeuille global, pour pas qu'un produit cannibalise un autre produit dans leur même univers. Et puis après, la partie personnalité de marque. Donc là, c'est vraiment... j'utilise les archétypes de marque. J'avais fait un très grand blog sur un de mes articles là-dessus.
Passionnant d'ailleurs. Enfin, je conseille à tout le monde. J'ai adoré. Je l'ai partagé avec mes clients récents, là.
OK.
Et j'ai trouvé ça génialissime. Enfin, très bien écrit, top. D'ailleurs. Enfin, je trouve que
je vais le monétiser, alors.
T'es multitalent, là.
C'est génial, merci.
Ouais, vraiment, bravo. Très, très utile.
OK. Top. Bah ouais, du coup, moi, ça me sert aussi de deck, au final, quand je fais mon workshop. Hein, je reprends le site, et puis je scroll, et puis je leur dis un petit peu tout ça. Donc, j'utilise ça. Je dis bien, en nota bene, au début, que c'est pas l'outil miracle, c'est pas... Ça peut être considéré comme du bullshit par pas mal de gens. Des marketeurs utilisent d'autres choses, le Hexaco par exemple, où il y a plein d'autres modèles de personnalité, etc. Moi, j'ai juste trouvé que c'était hyper parlant pour les gens et souvent, ils savent pas trop ce qu'ils veulent.
Tout à fait.
Et c'était top.
Ça dépend les typologies de clients, mais en l'occurrence, notamment pour la boisson, je trouve que ça peut être vachement pertinent, quoi. Ouais, c'est sûr que pour un cabinet de comptable ou ouais. D'autres secteurs d'activité...
Oui, des produits grandes conso, ouais, c'est intéressant comme approche, en effet.
Après, il y a une particularité toujours, c'est dans le monde de la boisson, on a tout le temps deux personas, en fait. On a le client final et on a le distributeur. Exactement, qui va acheter pour le client final. Et c'est toujours difficile de savoir pour qui on va brander le produit. Donc là, il y a des petites nuances à faire. Mais voilà, donc en gros, le kick-off de marque, il dure 2 heures, il va expliquer globalement tout ce qui va se passer. Donc pour moi, ouais, l'objectif SMART, c'est très important, les points de friction aussi, et établir l'équipe et les partenaires, ça va vraiment définir le projet de manière très... avec une belle rigueur, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris de ma compagne et pas d'une
et
école.
Oui, parce que voilà. Ça, c'est une méthodologie purement d'approche aussi commerciale. Clairement, c'est la manière dont tu cernes l'écosystème de ton client, comment tu t'y adaptes. Ouais, en fait, finalement, c'est assez... oui, ça, c'est une approche très, qui est beaucoup utilisée dans les cabinets de conseil, mais qu'on prodigue aussi à tout commercial, voilà, qui se respecte, tout bon commercial qui se respecte. Et du coup, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc là, tu nous as parlé de l'accompagnement, quelque part, exorciste de marque, donc finalement, plateforme de marque.
Ouais.
Est-ce que ton travail aujourd'hui, tu vas un peu plus loin, ou est-ce que tu t'es spécialisé vraiment sur cette niche-là ?
Alors, on va dire que depuis que j'ai opéré le switch, je propose toujours de l'exécution, mais l'exécution, c'est plus la porte d'entrée. Mmh. Donc maintenant, je fais d'abord payer ma tête avant de faire payer mes mains.
Tes mains et ton Photoshop.
Voilà. Okay. Parce qu'il y a vraiment plus de valeur ajoutée dans la manière dont on construit quelque chose, mmh. et le thinking, c'est plus, y a plus de valeur là-dedans que juste la création pure. Mmh. Et c'est sûr, les gens, ils veulent une marque, donc ils veulent voir à quoi va ressembler leur canette ou leur produit, et c'est le truc le plus fun, et même pour moi. Mais par contre, c'est pas le truc le plus... c'est pas ça qui va faire vendre plus de, oui. de choses, quoi.
C'est ouais. pas, et puis, c'est donc, pas les, oui, c'est pas la fondation de la marque, quoi.
Bah ouais, ouais, c'est sûr. Et pourquoi les produits en GMS, les plus moches, sont ceux qui sont le plus achetés? Enfin, pour moi, la beauté d'un packaging ne fait pas forcément plus vendre. Donc, ouais. Il faut vraiment être en cohérence avec sa cible, et c'est le truc prioritaire. C'est vraiment toujours avoir sa cible en tête et enlever ce côté égo et penser que ma marque doit ressembler à ça, doit être verte ou rouge parce que ma couleur préférée, c'est le vert ou le rouge. En fait, faut vraiment penser à sa cible finale et à se dire, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans leur verre ou, donc, ouais.
Et donc, du coup, en fait, finalement, le fait d'avoir remonté d'un cran, ça te permet d'être beaucoup plus 360 sur les clients que tu accompagnes, quelque part. Enfin, 360 dans le sens marque et après exécution. Est-ce que tu travailles néanmoins avec peut-être d'autres prestataires, d'autres professionnels qui vont venir t'aider, ou tu es en solo ?
Je suis en solo. J'ai un réseau maintenant qui s'étend pas mal. Donc, s'il y a des besoins très spécifiques, ce qui n'arrive jamais, je peux externaliser, mais les besoins arrivent très rarement, et donc pour l'instant non. Oui. Après, c'est pas ça m'arrive beaucoup de faire travailler des illustrateurs, si, parce qu'il y a, ouais. y a pas mal de gens qui veulent de l'illustration, c'est assez hype en ce moment sur les canettes de bière,
oui,
et tout,
ou l'étiquette,
donc et ça, c'est ouais. quelque chose que je fais pas, c'est pas mon expertise. Donc bon, on va dire à 99% non, les 1% restants, c'est tout le réseau, c'est la veille graphique constante, parce que je reçois des newsletters et je vais sur Behance toutes les semaines et je regarde ce qui se fait tout le temps et je bookmark des choses de partout, donc je sais ce qui va se passer au final dans les prochains mois, les prochaines années, j'ai un œil là-dessus, donc je sais qui aller chercher en fonction du projet et du client. Mais non, sinon c'est quasiment tout le temps solo.
Et aujourd'hui, tout ce que le plus gros de ton pipe d'activité, c'est de la boisson.
C'est que la boisson.
C'est que de la boisson, t'es ouais. à 100%.
Mmh.
Ok.
Et tu t'ennuies pas alors ? Tu tournes pas en rond ?
Non, c'est trop bien.
C'est trop bien.
Et même quand je reçois une demande qui n'est pas de la boisson, ça me saoule direct.
Ouais.
Alors que avant, je voulais tellement de choses différentes et tout. Mmh. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de start-up et de jeunes qui ont, je sais pas, genre à 21 ans, ils veulent bouffer le monde et ils ont des ambitions de fou maintenant, les jeunes, donc c'est super excitant les projets qu'ils ont. Donc ça, c'est pour le côté super potion, parce que j'en ai pas parlé, c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est complexe, mais j'ai décidé de scinder en deux mon activité. Mon podcast s'appelle Super Potion, mais c'est un écosystème beaucoup plus porté sur les créateurs et les start-up de boissons. Donc pour ça, j'ai des prix et des tarifs qui sont indiqués sur mon site web. Les gens savent à quoi s'attendre. Il y a des workshops spécifiques. Il y a différents prix et c'est des prix abordables pour des gens qui commencent. Donc ça, c'est l'aspect super potion pour les startups. Studio Black Sounds, c'est tout ce qui est exorciste de marque, etc. C'est un autre branding. C'est on va dire, c'est deux filières différentes. Là, c'est vraiment axé spécifiquement aux entreprises déjà bien implantées, minimum 3 ans, mais souvent c'est 5 ou 10 ans, voire même plus, dans le marché, où là, on entame un rebranding, donc un rafraîchissement de marque, une refonte de marque des fois complète avec les valeurs et tout. Ça dépend, les manifestes, etc. Et là, bah, c'est pas les mêmes tarifs, quoi. Ça débute à, mm-hmm. à partir de 15 000 euros et puis plus si affinité. Donc voilà. Et puis maintenant, ce qui est bien, c'est que je fais mes propres tarifs et qu'on les remet plus en cause parce que j'ai cette expertise-là, elle est très nichée. Et souvent, on me dit, bon, bah, soit on est tombé sur ton site web parce que c'est le premier en premier lien de Google, parce que y a eu plein d'articles de blog, etc., ou le podcast en lui-même, soit on a vu que toi qui alliais marketing, boisson et consulting. Et du coup, bon, bah, ça fait 2 ans de travail acharné quand même. Et au bout d'un moment, j'arrive à mes fins, petit à petit, à cette volonté que je me suis donnée il y a 2 ans, mais c'est vraiment du travail continuel. J'ai pas arrêté pendant 2 ans et on va dire entre la vie pro et la vie perso, c'est des fois compliqué pour moi dans ma tête de m'arrêter. Bon, c'est le truc de tout entrepreneur, mais quand je suis à 20h ou 20h30 le soir devant la télé, il y a un truc qui me fait penser à quelque chose, et ben j'y pense et puis ça tourne dans la tête et puis je revais travailler après. La limite est difficile. Donc c'est le seul point négatif, mais ça reste quand même de la passion. Donc voilà, mais non, je me fais pas chier du tout.
Et tu dirais que tu es à combien de projets combien de très projets peu. Tu peux avoir en même temps en fait,
c'est en même temps pour moi je dis pas plus de 5 en même quand temps. Même.
C'est
oui, mais quand je dis pas plus de 5, au final je commence à dire pas plus de 5 à l'année.
Ah oui, voilà.
Parce que ouais. Avant, quand j'étais plus designer, etc., je cumulais plein de clients avec plein de petites tâches. Et c'était des micro-tâches et j'avais peut-être 15, 20, 30 clients. Je crois qu'avant mon switch, j'ai travaillé avec plus de 60 clients.
En
tout. Hein, pas...
Oui,
pas en même temps. Mais en tout cas, maintenant, je suis plus partisan de prendre 5 gens maximum dans l'année. Mmh. Et souvent, c'est peut-être même 1 à 3 projets qui sont gros, où il y a de l'envergure, on a le temps. Parce que les gens veulent toujours aller vite, ils disent « Ah, rebranding, j'ai 1 à 3 mois pour le faire. » Non, ça dure 1 an minimum. Le temps de s'y mettre, le temps d'avoir les retours, le temps d'avoir des retours clients, des interviews et tout, ça met minimum 6 mois et la plupart du temps 1 an. Donc voilà.
Ouais, je me souviens, c'est ce que disait d'ailleurs, je crois que c'est Camille Sabac dans l'un de tes derniers épisodes sur le filtre vodka dans ses précédentes entreprises. Elle disait que ça prenait 1 an en fait, c'est impossible de faire moins. Quoi.
Et elle était aussi dans des grosses boîtes, donc. Mais ouais, il faut avoir assez de recul quand même.
C'est sûr. Rien à voir, mais peut-être quand même. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
Quand j'étais petit, je voulais être game designer. Je voulais créer des monstres, les dessiner et les rendre en 3D pour des jeux vidéo. Et pourtant, j'étais pas super geek. J'étais un peu quand c'était l'époque de la Super Nintendo, etc. Donc c'est un peu vieux, ou les premiers jeux sur ordinateur. Mais ouais, je voulais vraiment construire des univers graphiques. Hein. Au final, on n'en est pas si loin. Maintenant, c'est plus avec les mots qu'avec l'exécution. Mais en tout cas, ouais, je voulais créer des monstres et puis les modéliser en 3D. Donc j'aurais voulu faire peut-être une école de studio 3D ou je sais pas quoi, sur Lyon. Mais la vie en a voulu autrement.
tu parles des mots, justement. C'est toi qui écris.
Ouais.
Cette compétence, ce don, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais comment tu fais pour ressentir les clients et traduire aussi bien dans le contenu édito que dans l'image?
ChatGPT. Non, je
Tu peux nous en parler, Steve.
Ouais. Je vais l'utiliser de plus en plus. On va dire l'écriture. Moi, comme j'ai dit avant, j'étais dans des groupes de musique et vu que j'étais le screamer, j'écrivais les paroles. Et ça, depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait maintenant, j'en ai 36, donc voilà, ça fait quoi? Ça fait 22, quoi. Donc, 22 ans que j'ai écrit des textes. Alors bon, c'était pas le même genre de texte, hein. Mais en tout cas, ça m'a appris un peu l'amour des mots, les figures de style. Je sais pas, il y a un truc que je pense que j'aurais préféré faire L que S. Mm-hmm. Donc il y avait un truc dans les mots que j'aimais bien. Là, maintenant, je mets de Antidote aussi, qui est génial. Je sais pas si vous le connaissez comme logiciel, mais Antidote, c'est un dictionnaire au final.
Okay.
Et c'est un dictionnaire de synonymes ou même de tout, et tu peux avoir des co-occurrences de mots, les antonymes, les synonymes, les citations qui ont été faites avec des mots, J'utilise ça quasi tous les jours, c'est vraiment très puissant. Et ça permet de corriger les fautes d'orthographe aussi, pour ne pas paraître débile quand j'envoie des mails.
Merci pour la reco.
Ouais, non, Antidote, c'est vraiment très cool. Tu peux même l'avoir sur Split, le site où tu peux payer moins cher tous les abonnements. C'est un Split avec plein de i, là, où tu peux avoir des abonnements Netflix, YouTube Premium, Antidote, toute ta vie, en moins cher, tout ce qui est abonnement avec des slots payants. Un petit tips au passage pour ceux qui n'écoutent pas.
Ah ouais, là, je...
Mais c'est quand tu vas être productif dans ta vie et dans les sous que tu dépenses en tant que freelance, j'avoue que des outils comme ça où tu peux scinder avec des gens que tu ne connais pas, des abonnements multiples, c'est vraiment cool, quoi. Donc Antidote, très bon soft pour les mots et dictionnaires, etc. Et au final, je me suis peut-être un peu éloigné de question.
C'est la fibre éditoriale.
En fait, c'est co-construire avec les gens la marque. Quand on fait des workshops avec eux, on s'imprègne vraiment et on est vraiment dans la marque. Et du coup, j'arrive à sentir ce qui est bon ou moins bon. Et c'est pas toujours juste. Les directeurs de marque sont très bons pour me dire ça non, t'es allé un peu trop loin, ou ça oui, ça va plutôt bien. Il y a un exercice que je fais dans mes exorcismes, c'est des interviews de marque pour se mettre à la place de la marque comme si c'était un être humain. Donc en gros, qu'est-ce que je pense du monde, qu'est-ce que je pense de mon industrie, mais en me disant que je suis dans le mindset de la marque et que je ne parle pas en tant que PDG. Et après, je me suis rendu compte quand même que la marque fonctionnait bien quand elle était aussi proche de son créateur, quoi. Donc, c'est souvent assez lié, la manière dont la marque fonctionne par rapport à vis-à-vis du créateur, quoi. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ?
Là, j'ai envie de dire... c'est nul comme réponse, les autres, quoi. Alors, j'écoute des podcasts H24.
Mais justement.
J'ai toujours des podcasts dans les oreilles.
N'hésite pas à nommer.
Ouais,
si t'as des recommandations.
J'écoute beaucoup The Business of Authority. C'est un de mes mentors pour tout ce qui est pricing et positionnement. C'est très bon. The Future, c'est aussi très bon en podcast. C'est souvent des trucs anglo-saxons. Un que j'aime beaucoup, c'est le Super Daily. Ils sont sur Lyon. Ouais.
Oui.
Vous dites oui, vous les connaissez. C'est assez cool. Et puis, c'est juste 15 minutes par jour. Donc, c'est bien écoutable. J'aimerais bien faire un format comme ça aussi. Vraiment, le podcast, pour moi, ça a complètement changé ma manière de passer du temps libre nul à rien faire. Ou faire le ménage, ou faire la cuisine, ou courir. On a un truc dans les oreilles, donc en fait, on
se nourrit.
On se nourrit constamment, en voiture, partout. Et moi, souvent, c'est drôle, c'est ceux qui écoutent mes podcasts, ils sont toujours en livraison. livraison pour lui, c'est là où ils écoutent mes podcasts. Donc, je fais des petits clins d'œil, des fois, surtout dans les derniers numéros. Donc, qu'est-ce qui me nourrit ? Ça, mes newsletters quotidiennes sur le design. Franchement, ça, j'en démordrai jamais, mais le design graphique, c'est juste génial, quoi. La créa non-stop. Il y a un onglet maintenant Chrome aussi. Alors, je crois que ça s'appelle Design Daily, mais je ne suis plus très sûr. Peut-être qu'on pourra mettre le lien en description. Où là, c'est vraiment une extension Chrome qui tous les jours ouvre un onglet. Quand on est sur Internet, hop, ça ouvre un onglet automatiquement avec un résumé de plein de trends graphiques, avec les applis du moment, les designs du moment, les Instagram, les NFT, les Behance et tout ça.
Ah ouais.
Et là, j'ai un panel global sur la journée de tout.
Okay.
Et après, je fais mon petit
supermarché.
Mon petit supermarché, voilà. Et qu'est-ce qui m'inspire d'autre ? Les films géniaux de A24 ou les séries de HBO. Voilà.
Oui, ça en fait déjà.
Oui, ça fait pas mal de choses. Ouais.
Est-ce que tu veux qu'on parle argent ?
Allez, monnaie, monnaie, monnaie.
Monnaie, monnaie, monnaie. On parlait en off du fait que c'était très tabou en France. Hein.
Ouais.
Tu nous as justement d'ailleurs donné un bon conseil. C'était d'en parler en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en parler tout de suite aux clients. Pour tout de suite briser la glace à ce niveau-là.
En fait, il faut en parler tôt quand au fond de toi, tu as le sentiment que ça ne va pas forcément le faire direct, histoire que la personne ne parle pas pendant 30 ans et qu'on ne soit pas aligné en termes de tarifs. Ça ne sert à rien, on fait perdre du temps à tout le monde, c'est nul. Quand tu sens que la personne est vraiment investie, qu'elle a un projet d'envergure, là, il vaut mieux attendre un petit peu, qu'elle parle pas mal de son projet, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, elle vient vers toi en connaissance de cause. Donc, si tu donnes l'image que tu vas être quelqu'un de cheap, eh ben, elle s'attend à ce que tu donnes un prix cheap. Si tu donnes l'image de quelqu'un de premium, elle s'attend à un prix plus cher. Je pense qu'il faut éviter au maximum que la personne t'appelle et qu'elle tombe des nues quand tu dis ton tarif. Ça, c'est une question de positionnement et comment tu te brandes sur Internet. Voilà. Est-ce que tu mets les tarifs directement sur ton site web ou non ? Ça, c'est vraiment un truc... moi, j'ai testé les deux et je continue de tester les deux. j'ai pas de réponse précise là-dessus. Mais par contre, je trouve que quand on met un prix directement sur son site web, il n'y a plus trop de questions. Tu donnes le tarif, tu mets ce qu'il y a dedans, c'est un pack. Et les gens, ils te font pas perdre de temps. Ils ne te posent pas trop de questions. Tu mets une FAQ en dessous pour savoir et puis ils savent à quoi s'en tenir. Quand tu ne mets pas de prix, tu peux faire du value-based pricing ou essayer de voir combien lui serait prêt à mettre parce que c'est toujours différent. Mais voilà, moi, je fais des prix en fonction du client. Ce n'est pas pareil si tu as Jack Daniels ou si tu as une start-up boisson. C'est normal, ce n'est pas le même process, ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas les mêmes budgets. Donc tu ne vas pas faire un logo à Nike comme tu prices le restaurant du coin. Ça n'a rien à voir en fait. Et il y a plein de gens qui sont encore surpris de ça. Et qui disent, ah bon, moi je croyais que vous comptiez vos heures, etc. Donc non, il n'y a plus d'heures maintenant, c'est, c'est au projet, c'est au forfait. Avec Super Potion, j'ai des tarifs très spécifiques et globalement, je rajoute un zéro à chaque offre. Le but, c'est d'avoir une échelle et que le client qui arrive à la toute première puisse en fait choper toutes les offres crescendo, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi dans toutes les techniques de vente ou de pricing. Donc voilà. Et par contre, pour Studio Black Sands, il y a un tarif minimum d'entrée pour les diagnostics de marque qui est à 15 000 euros. Mm-hmm. Et c'est l'entrée de gamme. Donc c'est pour ça que je dissocie les deux. C'est qu'il y a le côté, je suis petit, j'ai pas trop de budget, etc. Et je veux me lancer, ce qui est normal. Et moi, ça me fait penser à moi quand j'étais plus jeune. Donc, je voulais avoir ce côté-là. Forcément, c'est moins poussé. Et la partie rebranding, où là, bah, on est là depuis 5 ans, depuis 10 ans, c'est la moindre des choses de pouvoir mettre 15 000 euros dans un début de stratégie de marque pour vendre beaucoup plus, quoi. Enfin, ça fait sens, quoi. Si on fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, c'est quand même pas grand-chose en pourcentage vis-à-vis de ça. Donc en tout cas, c'est le positionnement à ce niveau-là.
Et eux, ils viennent te chercher. Nous, on avait un peu constaté ça avant de créer le podcast aussi. C'était que les entreprises, même si elles ont du budget, elles ne veulent pas forcément l'allouer à de la stratégie de communication ou plus opérationnelle parce que c'est, c'est cherry on the cake, quoi. Donc toi, tu es en face de toi, les entreprises, elles sont conscientes de la valeur de ce que tu peux leur apporter et donc elles sont prêtes à mettre le prix, quoi.
Ouais. Et même, c'est marrant, et ça, le podcast a vraiment changé la donne. Un des derniers clients, c'était le brasseur de la team et pas forcément le CEO qui écoutait mes podcasts et qui lui a dit « Bon, bah, tu devrais peut-être l'appeler parce qu'il fait ci ou ça. » Donc, c'est au final grâce à une personne de l'équipe interne que j'ai eu le projet de l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est assez top à ce niveau-là. Et après, tu parlais en termes de fait de mettre autant d'argent dans le branding.
Quand je dis autant, c'est que parfois, les dirigeants...
pensent que c'est pas que ça veut pas autant.
Ouais.
En fait, j'avais fait le parti pris pour un autre un truc qui n'a rien à voir avec la boisson. Et je m'étais dit, bon, là, c'est le jackpot. Soit je montre que je suis une agence de standing et je peux peut-être tenir la route, soit je fais un prix d'entrepreneur. Et je serais peut-être même pas visible. Et du coup, j'avais gagné un projet à 35 000 euros parce que j'avais mis 35 000 alors qu'habituellement, je mettais 5 000. Mais là, c'était un truc de fou quand je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ah ouais, je lui ai renvoyé 5 000 pour faire tout ce que j'avais dit. Le mec m'aurait limite snobé parce que j'étais pas assez cher, quoi. Et du coup, à force d'écouter tous les trucs, tous les podcasts, j'ai mis, bah ok, vas-y, 35 000. Et il me disait, ah bah vous êtes pile entre les deux. J'ai dit, ah putain, il y a des mecs qui ont demandé encore plus cher. Donc en fait, ouais, ça m'a complètement débridé en termes de pricing. Après, il faut faire aussi en fonction de ta filière et ton secteur. Hein. Si tu vois qu'il y a beaucoup d'argent ou pas du tout, il faut aussi te reniveler. C'est plus un art qu'une science, hein, le pricing, c'est vraiment complexe, quoi.
Il y a une deuxième astuce que tu nous as délivrée.
De sur le pay paiement. Upfront. Ouais. Ah, l'astuce. Ah, le paiement upfront, ouais, ça c'est.
C'est aussi un apprentissage que tu as eu par la culture anglo-saxonne.
Par les anglo-saxons et les mentors que j'écoute tout le temps, ouais. Un d'entre eux disait de demander un paiement 100% d'avance, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Et j'en ai eu marre au bout d'un moment, au bout de 10-15 ans, de traîner après les paiements, d'être. En fait, on n'a plus envie de travailler même quand on attend son paiement. Donc c'est vrai que je pense que c'est un win-win pour les deux. C'est eux, du moment où ils ont payé 100% la prestation, ils vont être investis dans le projet. Ils vont pas faire attendre. Ils vont se dire « Ah merde, on a payé 100%, ok, faut qu'on débite. » Parce que souvent, c'est le client qu'on attend aussi. S'ils payent juste 30%, il y a le temps. Parce que nous, on dit « Bon, ok, les 70% à livraison ou 50% à livraison, la livraison arrive jamais ou c'est dans un an, dans deux ans. Moi, en attendant, il faut que je vive. » Donc non, maintenant, ce que je mets dans mes contrats et dans mes prestations, c'est un paiement 100% d'avance. Et puis après, on négocie en fonction des possibilités ou non. Mais en tout cas, la négociation se fait après sur les conditions et les termes de paiement plutôt que sur le prix final. Ça, c'est vraiment un petit twist aussi que j'ai trouvé qui marchait plutôt bien. Et c'est encore une fois, c'est comment tu te présentes sur le marché. Si les gens sont persuadés que tu vas faire un bon job ou que tu es la personne qu'il faut pour faire le job, ils seront pas chiants sur les conditions, ils accepteront le truc et ils se disent non, mais en fait, de toute façon, c'est lui qu'il faut. Et puis voilà. Pour ça, il faut passer du temps et du temps pour être cette personne. Il faut être unique, il faut être spécialisé dans une niche spécifique. Il faut que tu sois juste mémorable et que tu sois pas le graphic designer qui fait tout pour tout le monde. Il faut choisir ta niche. Il faut choisir une niche aussi qui te plaît, des gens que tu as envie d'aider en fait, dans la vie. Tu dis, il y a un fit. Si tu aimes bien la cause animale, peut-être que tu vas travailler qu'avec des assos ou des entreprises qui font de la nourriture pour animaux, je sais pas. Il y a plein d'autres choses pour d'autres causes. Mais le but d'un business, pour moi, c'est vraiment de sauver la planète, sauver le monde. Je sais pas, de donner un petit truc à chaque fois là-dedans, reverser aussi, redonner. Donc, il y a un côté karma. On n'est pas juste un business pour faire de l'argent, on est un business qui a d'autres questions, et c'est une des principales questions que je pose dans mes workshops. Qui seriez-vous au-delà de l'argent, quoi. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous feriez ça si c'était pas monétisé? Et là, les gens ils font un pas de recul et ils se disent ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça. Et puis voilà, on essaie de parler autour de ça,
le fameux why. Moi, j'ai une question aussi. Tu donnes des cours aujourd'hui ou pas, alors?
Alors, j'en donne, mais j'en donne pas à Condé. Ouais. J'en donne en privé. Et là, du coup, pas plus tard que ce matin, j'ai signé une convention pour mes workshops. Parce qu'en fait, j'ai demandé un numéro d'organisme de formation au département. Enfin, donc, du coup, je suis organisme formateur, entre guillemets. Donc, je peux dispenser des formations avec des conventions. Donc, ça permet aussi aux particuliers qui veulent se lancer et qui n'ont pas encore leur structure d'enlever la TVA. Parce que dans mes tarifs, par exemple, le workshop turbo qui est à 2500, c'est hors taxe. Donc, ça rajoute 500. Donc, quand on est particulier et qu'on n'a pas encore sa boîte, ça fait un petit peu mal de rajouter 500 balles. Donc, ça, c'est toujours ça de moins. Donc, en fait, je donne mes workshops à qui veut sous ce biais-là. Je réfléchis petit à petit à créer ce workshop comme étant vraiment des leçons en ligne qu'on peut suivre sur Thinkific ou sur les plateformes de e-learning, quoi, où on arrive et puis on suit la formation. Et puis moi, ça me permet de pas être là, mais quand même d'avoir du revenu passif, parce que ça aussi, le revenu passif, c'est un truc dont on pense pas assez, mais qui peut être très profitable. Par contre, il n'y a pas le consulting derrière, il n'y a pas le coaching. Le prix sera nettement inférieur, du coup, mais ça fait du revenu où si les gens ils peuvent pas se permettre plus, ils ont quand même ça. Donc là, je pense très fort cette année-là à rendre mes workshops accessibles en leçon en ligne, quoi.
Et quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui veulent se lancer, la jeune génération? Enfin, toi, il y a 15 ans, par exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, qui t'aurait aidé, peut-être?
Juste sois toi, déjà. Crois en toi. et une vision. Pense pas que qu'avoir une vision trop exubérante ou trop impossible. Enfin, pour moi, rien n'est impossible. En fait, il suffit de le vouloir et d'y croire très fort et d'aller à fond. Là, moi, quand j'ai fait mon revirement au bout de 10 ans, c'est comme si je retombais à zéro. Clairement, quand je me suis switché dans la boisson, personne ne me connaissait. Mais personne, quoi. Et donc, en fait, j'avais beau dire, ah bah ouais, j'ai fait du design depuis 10 ans, je suis bon ou je suis senior, tout le monde s'en fout, personne ne me connaissait. Donc, il faut faire du réseau, il faut travailler avec des personnes qu'on aime ou qu'on veut aider. Vraiment, il faudrait pouvoir boire une bière ou boire un café ou faire un resto avec son client. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc clé. Pas travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler, donc bien sélectionner sa niche. Au début, je dirais oui, dire oui à tout, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu dises quasiment non à tout. C'est un peu le précepte de monter en expertise. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Essayez d'avoir des petites notions de vente quand même. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez être freelance et développer votre business, vous n'êtes plus salarié de quiconque. Donc, à partir du moment où vous êtes freelance, vous n'êtes pas juste un graphiste ou un designer, vous êtes tout. Et par contre, vous n'avez pas de congés payés, vous n'avez pas de RTT, vous n'avez pas toutes les choses cool d'un salarié. Donc des fois, il faut se dire, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je sois salarié? Si on n'est pas prêt pour faire de l'admin, de la vente, etc., faut vraiment se poser cette question-là.
La dernière question, c'est qu'est-ce que ça t'évoque derrière l'affiche?
Derrière l'affiche, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque quelque chose de très culturel. Moi, quand je pense à derrière l'affiche, le premier truc que je pense, c'est à Avignon.
Ah oui, bah oui, ouais, forcément.
Le théâtre,
je
les affiches.
Je peux comprendre, ouais.
Et du coup, ça m'évoque une rencontre, mais une rencontre palpable, donc bah, ce qu'on fait en direct, et pas une rencontre digitale. Donc effectivement, pour moi, il n'y a pas du tout le côté digital, donc peut-être moderne, entre guillemets, que m'évoque derrière l'affiche. Pour moi, c'est plus quelque chose d'authentique à l'ancienne. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez voulu dans votre branding.
Oui, alors en manière secondaire, mais...
Il y avait cette idée d'affiche, de pub aussi. Donc, aller voir qui produit, qui fait, qui sont toutes ces petites mains et ces cerveaux, en fait. Il n'y a pas qu'une seule personne. Enfin, voilà, comment ça se passe, en fait, pour avoir une affiche finale? Et du coup, l'idée, c'était d'aller
arracher la propagande.
Voilà, arracher tout ça et aller voir effectivement en vrai. Par contre, ça, c'est clair et net.
Pour moi, c'est le relationnel. Ce nom m'évoque le relationnel. Et peut-être ce côté qui se perd au jour le jour avec le digital à tout prix. Et moi, le premier, tous mes podcasts sont digitaux. Je ne vois jamais les gens et je ne rencontre même pas mes clients.
Même pas une première fois.
Non, surtout pas une première fois. Non, je le rencontre que si ça se passe bien et après un moment.
D'accord.
Ou après la fin d'un rebranding ou un événement qui sert à quelque chose. Franchement, plus le temps passe, moins on a de temps pour soi. Donc en fait, je sais pas, juste un aller-retour à Paris, ça me fait chier. J'ai aucun intérêt à perdre de l'argent, à prendre ma voiture, à polluer. Je préfère être direct en Zoom call et que ça soit effectif. Et puis je passe à autre chose après, quoi.
Ah, donc tous tes workshops d'équipe avec tes clients?
Tout
j'avais
est en
pas
web.
J'avais pas ça en tête,
ah
puisque
ouais,
moi mon mindset
digital.
C'est vraiment d'être dans le relationnel physique palpable. Tout est digital.
Tout est digital.
Oui, okay.
Ouais, bah je gagne un temps fou. Les clients aussi. Canon. En fait
ouais.
Mais rien n'est en vrai. Je
oui,
suis même pas là.
T'as même pas les deux.
je suis une intelligence artificielle.
Ouais, voilà. T'as pas le paperboard, t'as pas le post-it.
J'ai mes decks PowerPoint qui sont mis en plein écran. Je tape en direct. Donc, ils voient en direct les exercices qui se remplissent, etc.
Okay, okay.
C'est de l'éducation plus de l'exercice en direct. Donc, il y a quand même ça. Oui, je fais quand même quelque chose.
Sans blague.
mais non, j'essaie d'entraîner un modèle d'IA pour n'être plus présent bientôt. Ça serait cool. Non, mais ouais, voilà, en tout cas, voilà ce que ça m'évoque.
Très bien.
Merci,
merci Ludovic.
Merci à vous deux.
À bientôt.
À bientôt.
Exorciste de marque, les libérer et les révéler. C'est audacieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, ça me fait toujours quelque chose d'écouter des parcours de personnes ou de marques qui ont osé se spécialiser. Peut-être qu'en bonne généraliste, je me délecte de la manière dont elles ont su, à un moment donné, choisir. Et donc renoncer. C'est ce qu'a brillamment réussi Ludovic. Mue par l'envie d'entreprendre, d'explorer tous les pans de sa créativité et guidée par une certaine vista de ce que représentent le branding et la communication pour les entreprises, il a bâti une belle maison au service des marques de boissons craft et éco-responsables. Par ce choix de niche, il offre par la même occasion une démonstration implacable de son savoir-faire. Malin, non ? Allez, à vos niches de marché et vos stratégies de repositionnement. Et psst ! On en profite pour vous dire que c'était le dernier épisode de cette saison 2 de Derrière l'affiche. On prend nos quartiers d'été, et même un peu plus, car on a une furieuse envie de se réinventer. À bientôt !
À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher.
Le générique a été réalisé par Yuen Madek.
La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.